Le nombril de Vénus, Juliana, sur Canal B.
Tous les dimanches, de 11h à midi. Au 94 MHz et aussi sur canalb.fr.
Bonjour tout le monde, c'est Juliana pour une nouvelle émission Le Nombril de Vénus sur Canal B. Ce dimanche, je vous propose deux interviews. On va commencer avec Étienne Bernard, le directeur du FRAC Bretagne, avec qui, quand on n'a pas sommeil, on fait la fête. Et puis ensuite, Régis Guigon, coordinateur labo des artistes de l'événement Spéléographie, deux artistes qui s'y réunissent pour créer des œuvres à découvrir aujourd'hui. C'est le samedi 11 juin qui s'ouvre l'exposition « Pas sommeil » au FRAC Bretagne, au Champ Libre et au Musée des Beaux-Arts, l'événement qui mettra la fête au cœur de la ville jusqu'au 18 septembre, avec aussi un parcours urbain proposé par Exporama, la ville de Rennes et Rennes Métropole. Je suis allée au FRAC Bretagne, Étienne Bernard, le directeur, et son équipe étaient en pleine préparation d'avant l'expo. Pas sommeil, visite d'un lieu qui se prépare à vous accueillir pour faire et célébrer l'art de la fête. Bonjour Étienne Bernard.
Bonjour Juliana.
J'ai pas sommeil, qu'est-ce que je peux faire ?
La fête ?
Et là, ce sont peut-être des danseurs confirmés qui font la vidéo.
Alors, ce sont deux groupes d'adolescents qui se livrent à une sorte de battle. L'installation s'appelle Swingera. Donc, c'est entre le swinga, qui est un style de danse, et guerra, donc la guerre. Donc, c'est vraiment la battle. Et c'est une installation qui a été faite par deux artistes brésiliens. Enfin, elle est brésilienne, Barbara Wagner, et son ami qui est irlandais, Benjamin de Burka, qui vivent tous les deux à Recife et qui ont, et c'est l'installation, était le pavillon brésilien de la Biennale de Venise de 2019 et qui est complètement fascinant. C'est vraiment une approche de la fête qui est à la fois donc, festive évidemment, mais aussi surtout, on voit que dans la danse, les adolescents se revendiquent ce qu'ils sont, leur territoire, leur quartier, leur territoire identitaire, sexuel, de pop culture, etc. Et quelque chose de complètement fascinant. C'est une boucle de 25 minutes dans laquelle le public est incarcéré entre deux écrans et ne peut pas en sortir. Il y a vraiment quelque chose, on est au cœur de la bataille. Et on est très très content d'avoir cette installation qui est un peu une prouesse technique aussi à mettre en place.
On voit d'ailleurs une jeune femme qui fait carrément le signe de...
Il y a vraiment des chorégraphies extrêmement réglées, presque militaires d'une certaine manière, alors même qu'on parle de pop culture. Mais c'est effectivement, ça parle aussi de questions d'ordre, de questions de règles et de systèmes normatifs qui se génèrent lui-même. Quoi. Donc oui, il y a quelque chose peut-être assez militaire aussi d'une certaine manière. Ouais.
Et dans l'esthétique, il y a presque quelque chose aussi de asiatique, japonisant, un truc un peu...
Un peu cat size. Ouais. Je le fais bien, ouais. Il y a quelque chose de très aussi, genre, ouais, cette jeune femme, elle ressemble à Beyoncé, elle ressemble à aussi toute cette pop culture qu'elle baigne les millennials, quoi.
C'est marrant parce que si en fait il a joué avec les temporalités, un petit peu le chrono de la vidéo pour rendre encore plus lascif et plus sensuel les façons de s'exprimer à la brésilienne.
Ouais, tout à fait, parce que dans cette vidéo, il y a à la fois les scènes de danse comme celle-ci, mais aussi les scènes de répétition, aussi les temps de latence, les temps d'attente, des jeunes qui regardent les autres s'entraîner, qui les observent, qui les copient peut-être, qui les avec des regards parfois admiratif ou au contraire jaloux. Et c'est pour ça aussi que cette vidéo s'étire dans le temps, 25 minutes, pour laisser le temps à ces moments de latence qui sont hyper importants dans la danse, dans la pratique de la danse, comme c'est là le cas aussi, mais même dans une fête. Moi, je sais que quand je vais danser, j'aime beaucoup passer du temps à observer les gens danser plutôt qu'à danser moi-même. Et ça fait partie du truc. Et ces temps de latence font autant partie que de la fête et de l'expérience festive que les temps d'activation physique, évidemment.
Et évidemment, il y a toute cette part effectivement d'admiration, de complicité, voire de jalousie quand on observe les comparaisons.
De toute façon, la danse, le rapport au corps de l'autre, c'est forcément toujours sinon dans un conflit, au moins dans une bataille. Une bataille d'existence. Danser, c'est ça, c'est exister.
En tout cas, moi, je suis contente de savoir que les Brésiliens font partie de cette fête que vous proposez. Notamment
est-ce qu'il est possible de faire la fête sans parler du Brésil?
Non.
Je pense pas non plus. Et dans cette expo, on parle de Brésil, on parle d'Ukraine, on parle d'États-Unis, on parle de France aussi. On fait un petit tour de la planète.
Aujourd'hui, nous sommes ici au FRAC. L'exposition, l'inauguration va avoir lieu dans quelques jours. Donc, tout n'est pas là.
Et non, pas encore. Les choses se montent au fur et à mesure. Et c'est évidemment, il y a un certain nombre d'installations comme celle-ci qui nécessitent beaucoup de réglages. Et là, d'ailleurs, ce qu'on entend là, ce ne sera pas exactement le son de final. Ce sont les tests son. Ça va y ressembler, mais ce n'est pas exactement ça. Et c'est aussi... on a un certain nombre d'installations qui ne sont pas encore visibles, mais qui le seront évidemment le jour de l'ouverture. On a aussi des choses qui vont être difficiles à voir à la radio, puisqu'on a pas mal de photos, et on va aller les regarder ensemble. C'est une expo que moi j'ai souhaité faire jouer vraiment sur des rythmes. Donc il y a à la fois des moments très immersifs avec... on va dire quatre installations qui procèdent du son, de la vidéo, voire des deux, et qui plongent le spectateur dans une expérience de la fête et que j'ai imaginé dans une sorte de progression dans l'architecture du FRAC pour qu'on ait différents rythmes. Et entre ces moments plus immersifs, on va être plutôt dans l'effet inverse. Quand dans la dimension immersive, l'artiste nous plonge dans un univers, on va aussi entre les deux avoir des artistes qui commentent l'univers de la fête ou qui simplement l'observent, notamment en photographie documentaire. Et on peut aller voir ça si tu veux.
Oui, on y va.
The sun is high. I'm going outside. Vampires are asleep. Witches are taking over.
Better.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus, jusqu'à midi avec Étienne Bernard du FRAC Bretagne.
Ce que j'aime bien aussi, c'est ça, c'est que finalement, quand on va à la fête, on est tous bien acceptés. Qu'on a envie de danser, de participer, d'écouter de la musique à fond, c'est une chose, mais qu'on a envie d'être simplement observateur et rêvasser, c'est possible également.
Bah oui, parce que nous, la fête, on fait plein de choses dans une fête. On danse, on regarde, on drague, on boit, on se dope parfois aussi. Oui, on observe, on fait plein de choses. C'est toute une existence. Bah, donc là, par exemple, on arrive dans la grande salle du FRAC et il y a une pièce d'un artiste désormais disparu, John Giorno, qui est un grand héros de la scène américaine. Il a commencé pendant la Beat Generation dans les années 50. C'était l'amant de William Burroughs dans le Bowery à New York. Et il a fait des séries entières de pièces qui sont simplement des pièces typographiques avec une phrase typographiée sur un fond de Rainbow Flag, donc le drapeau gay arc-en-ciel. Et dans l'exposition, nous en avons trois qui sont un peu des commentaires de la question de la fête. Et celle par laquelle on commence, elle dit « We gave a party for the gods and the gods all came », ce qui veut dire « Nous avons donné une fête pour les dieux et les dieux sont tous venus ». Et elle sait, d'une certaine manière, c'est une sorte de sous-titre de ce qui se passe dans cette première salle, dans cette salle dans laquelle on est, où on voit, où on verra, parce que pour l'instant on ne voit pas tout. C'est une salle dans laquelle on parle, on va dire, du rassemblement, de comment la fête est un phénomène de groupe, et comment le groupe est un organisme vivant, qui est une somme de subjectivité, mais qui aussi fait ensemble. Et tandis qu'à d'autres endroits, comme on l'a vu à l'instant avec les Brésiliens, on voit qu'on est dans la danse et qu'on s'affirme soi-même, on peut s'affirmer en tant que groupe. Donc on a face à cette pièce de John Giorno une série d'une jeune photographe brestoise qui s'appelle Julia Squet, qu'on retrouve aussi, dont on retrouve un très grand déploiement d'une soixantaine de photos, je crois, au Champ Libre, en parallèle d'ici, et qui, elle, est une grande observatrice des raves, notamment en Bretagne, pas que, mais beaucoup en Bretagne. Et elle a une pratique photo-documentaire qui est assez intéressante parce qu'elle photographie la fête, mais surtout le hors-champ, c'est-à-dire tout ce qui fait les symptômes de la fête. Donc on voit, face à nous, on a une photo qui a été tirée en très grand, en 4x3, et qui est en fait, on y voit un sound system installé sur des palettes un peu précaires dans un champ. On voit un bout de camion d'un côté, il y a un des techniciens qui est incarcéré entre les baffes, une espèce de corps un peu acrobatique qui essaye de faire tenir avec des sandos les choses. Mais finalement, on s'imagine tout à fait que ça va produire du son. Mais à ce moment-là, non seulement c'est une photo, donc ça n'avait pas de son. Mais en plus, c'est un moment où ça n'est pas activé. C'est le début.
C'est un avant ou après.
C'est un avant, c'est un après. On n'en sait trop rien. Il y a une autre photo qui est très symptomatique de ça, que j'aime beaucoup, qui se trouve complètement à droite ici. C'est on est au tout petit matin. Il est peut-être 5 heures du mat. Et on est dans un champ avec des voitures. Il y a une tente. Et on voit que sur une des voitures reste une petite canette de bière oubliée, un cadavre.
Et des gens qui font des choses pas propres.
Oui,
dans la
qui sont sous des hoodies et qui font des trucs dans la voiture, on ne sait pas trop quoi et on ne saura pas et on n'a pas vraiment envie de savoir, mais peu importe. Toujours est-il que ces gens sont sous leur capuche, donc ne sont pas identifiables et sont dans cette zone grise qui est la culture techno. Et ça, c'est très important. Et cette pièce, cette série sur les rêves de Julie Asquette, elle trouve son pendant. Dans l'architecture du FRAC, l'installation n'est pas là encore, mais elle le sera la semaine prochaine. C'est une grande photo qui est en fait la seule image qui n'est pas une image signée par quelqu'un qui se revendique artiste, mais quelqu'un qui est vraiment de la photo de presse et qui est Jean-François Monnier et qui a pris des photos pendant la fameuse rave de Luron qui a été pendant le Covid, qui a marqué le jour de l'an du passage de l'an de 2020 à 2021 et qui a été interdite donc à côté de Redon. Et il nous semblait important quand on parle de fête donc post-pandémie. C'est comme ça qu'on a pensé cette expo Pas Sommeil, de parler aussi d'une logique de situation, de génération qui a été oubliée et un peu sacrifiée dans cette période-là, et puis aussi des choses qui ont marqué, c'est-à-dire que la fête est devenue interdite et l'interdiction a été jusqu'à l'intervention des forces de police. Donc là, la photo, ce sont des gens qui font la fête. Il ne s'agit pas de montrer, elle ne montre pas l'intervention des forces de l'ordre, mais par contre, il nous paraissait important aussi, puisque
elle est symbolique.
Elle est symbolique. Je pense que c'est un marqueur français, et pas que breton d'ailleurs, de ces deux ans, trois ans qu'on vient de passer. Et cette exposition, donc aussi bien au FRAC qu'au Musée des Beaux-Arts et au Champ Libre, elle va au Brésil, elle va en Afrique du Sud, elle va aux États-Unis, elle va je ne sais pas où encore. Mais c'est important qu'elle soit ici aussi. On est à Rennes, on est en Bretagne. Rennes, la fête, c'est aussi un ADN de la ville, dans le côté festif et dans le côté aussi un peu dark side de la chose. Et ça, c'est important de le revendiquer, quoi.
Vous écoutez le Nombril de Vénus, l'émission dans laquelle, quand on n'a pas sommeil, on fait la fête.
Finalement, quand on est festivalier, quand on est amateur de la fête, on se rassemble sur quelque chose d'assez universel, non ?
Oui, je pense. Il y a quelque chose de très universel et en même temps, il y a quelque chose, il y a des... Enfin, le mot fête est quelque chose d'universel. Après, par exemple, dans ces salles, on va parler aussi de fêtes très différentes. Donc, il y a la fête techno quelque part dans une campagne bretonne. En face, il y aura une grande photo d'un artiste allemand qui s'appelle Andreas Gursky, qui prend un concert de Madonna en très grand format. Et donc là, on parle de pop culture et je ne pense pas que ce soit les mêmes publics qui aillent à cet endroit-là. On aura du mal à retrouver les mêmes personnes. On va aussi avoir dans une salle adjacente une grosse fête techno en Ukraine qui a été filmée juste avant la pandémie en 2019 et qu'on a programmée, qui était prévue avant le début de la guerre en Ukraine et qui, dont évidemment la présentation ici prend tout un autre sens parce que il y avait un côté de jeunesse désespérée dans un contexte économique très difficile et évidemment accentué par la pandémie. Et maintenant, encore plus arrêté par le conflit armé qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Et donc ça, c'est aussi important que nous, en tant que lieu d'art, on continue à parler du temps et à parler de l'époque dans laquelle on est, en tout cas en laissant aux artistes la parole à cet endroit-là et aux visiteurs la capacité d'interprétation. Puisque ça, c'est une pièce de 2019, mais qui, je pense, ne peut pas être regardée aujourd'hui comme elle pouvait l'être il y a 2 ans. Et ça, c'est fondamental. On a, en revanche, des pièces beaucoup plus atemporelles ou suspendues dans le temps. Par exemple, au fond de l'espace, là-bas, il y a une grande pièce immersive d'un artiste franco-britannique, Mark Kamyshemovitz, qui s'appelle Celebration Revisited, donc la célébration revisitée. Et en fait, il s'agit d'une ambiance... sonore. On est dans un espace où il y a des boules à facettes qui tombent au sol, des cotillons, des choses, la lumière est lascive, la musique tourne en boucle. Grosso modo, on peut se dire bon bah il est 4h du mat, le DJ est tombé en coma éthylique, il a disparu, le truc continue à tourner. Et Mark Kamyshemovitz fait une sorte d'ode.
Oui, il est tombé sur une rencontre.
Oui, voilà, mais en tout cas, les trucs sont restés en plan, ça tourne, c'est la fin de la soirée, machin, mais c'est une fin de soirée qui s'étire pendant les 3 mois d'une exposition. Et donc, l'artiste souhaite étirer ce temps. Pour revendiquer le temps étiré, il rajoute des éléments un peu bizarres, type un abonnement à Libération. Donc, tous les jours, on va amener le nouveau Libé du jour. Comme si ce temps qu'on peut imaginer être entre 4h et 4h30 du mat s'étire aussi toutes les 2 fois par semaine, je crois. On aura un bouquet de roses qui sera remis puisqu'elles auront fané, etc. Donc c'est vraiment une espèce de d'ode à ce matin. On veut pas rentrer.
Il n'y aura pas une livraison des huîtres vin blanc.
Il est britannique, il les ferait frire. C'est horrible.
C'est ça.
Oye, perro guarro, los cojones, ¿me oyes? Oye, tú, ven a mí, saúl la mirada. Había estado bailando 2 o 3 horas sin parar. Vamos, vamos, perro guerro, güerito, trae tu cuero. Verte y olerte. La
cosa que hace con frecuencia, porque ella adora el baile.
Sommeil, c'est l'exposition d'art contemporain qui se tient au FRAC Bretagne, au Musée de Beaux-Arts et au Champ Libre du 11 juin jusqu'au 18 septembre.
Là, on va être dans une salle beaucoup plus portée sur la photographie, avec encore premièrement une pièce de John Giorno dont je parlais à l'instant, une pièce typographique qui vient donner le ton de la salle. Et celle-là, je l'adore. Ça dit « Prefer crying in a limo to laughing on a bus ». Et je préfère pleurer dans une limousine que de rire dans un bus. Ça, c'est le côté complètement décadent, dandy, gay de John Giorno et qui vient se surligner ou sous-titrer deux séries photographiques de héroïnes de la photographie de la fête qui sont Diane Arbus et Nan Goldin. Diane Arbus était une artiste puisqu'elle est décédée aujourd'hui, qui a beaucoup photographié la fête, mais aussi les
professionnels de la fête.
Les professionnels de la fête et puis aussi les freaks, la freakness. C'était avant même que le mot queerness existe, les gens qui étaient les bizarres. Et là, en fait, dans cette salle, c'est Nan Goldin, elle photographie ça dans les années 60, Nan Goldin va plutôt reprendre l'appareil dans les années 70, 80, 90. Mais là, tout autour de nous, on a que des gens qui sont des créatures de la fête et qui...
Des travestis, là, derrière toi.
Il y a des travestis, il y a des drag queens, il y a aussi juste des gens qui vont à un bal masqué, voilà, comme ça. Et en fait, c'est aussi un truc assez rassembleur de dire, je est un autre pendant la nuit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où on voit aussi des gens se maquiller, des gens qui sont en train de se transformer pour aller vers la nuit. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous, et c'est très démocratique, parce qu'il y a les drag queens qui sont dans une exubérance, etc. Mais n'importe qui va à un mariage va mettre le petit truc en plus qu'on ne mettrait pas tous les jours. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'apprête pour être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus, ou en tout cas quelqu'un qu'on a envie d'être, quelqu'un qu'on rêve d'être.
Son avatar en présentiel,
qui, peut-être, comme le dit John Giorno, préférerait pleurer dans une limousine que rire dans un bus.
Au moins une fois dans sa vie.
Bah, la limousine, c'est plutôt la nuit, le bus, c'est plutôt le jour, quoi.
Donc, dans l'universalité, on a pas mal de choses. On a la présence du corps, on a la musique qui rassemble vachement. Mmh. Il y a la para, il y a le fait de se rendre beau, de se maquiller ou de se préparer d'une certaine façon à vivre un temps, celui de la nuit, différemment de ce qu'on peut vivre le temps de jour.
Et puis ce temps qui va peut-être donner n'importe quoi. Donc on peut se mettre, là, en face de moi, il y a une image avec une femme qui a un très beau fourreau brillant, etc. Et qui rit apparemment au début de soirée et qui peut-être après finira comme Nan Goldin le photographie, plutôt dans les backrooms new-yorkaises des années 80 où on parle beaucoup de drogue, d'alcool. Le sida n'est jamais loin aussi. Donc voilà, il y a toujours aussi cet apparat, ces paillettes qui aussi sont peut-être un filtre pour ne pas parler des problèmes du monde, mais aussi peut-être aussi la coloration les problèmes du monde, en tout cas ceux-là. Notamment, je pense aux années SIDA, qui est vraiment le sujet de Nan Goldin. Diane Arbus, elle était avant. Mais en revanche, John Journeau, donc, qui nous dit ces phrases, lui, il en est mort du SIDA. C'est aussi très important. Et parler de la fête aujourd'hui, dans une ville comme Rennes, avec... comme partout dans le monde, mais peut-être plus précisément à Rennes, je pense à l'histoire des trans. Enfin, les trans, c'est aussi l'histoire des trans depuis 79 a traversé ça, ces drames sociaux et qui sont aussi des drames identitaires, comme avant tout celui du SIDA, quoi. Et finalement, puisqu'on a souhaité faire cette exposition pour essayer de fêter la fin de la pandémie, même si on n'est même pas sûr, on parle aussi de la dimension de la sanité du corps. C'est un sous-texte, en tout cas. Ce n'est pas le centre de l'exposition, mais c'est quelque chose ce serait, à mon avis, injuste de l'occulter. C'est l'histoire.
D'ailleurs, la photo de Backroom, elle est absolument sublime. C'est vrai, quoi.
Et voilà, et donc là, c'est une backroom à Tokyo. Oui. Il y a des gens qui se roulent des pelles dans un fond de boîte à New York. Ça, c'est New York aussi, avec des drag queens.
Est-ce que la jeunesse fait toujours la fête de cette même façon aujourd'hui?
Je pense qu'elle en a très envie. Après, elle a été assez arrêtée ces derniers temps. Mais oui, je pense que ça ne doit pas être très drôle d'avoir eu 20-22 ans ces dernières années. Mais ouais, moi, je fais confiance aux gens. Mais là, il y a quelque chose dans ces photos, notamment d'Anne Goldin, quelque chose d'à la fois assez mélancolique, triste, et en même temps profondément décadent et paillette. Et donc, ça, c'est peut-être quelque chose, pas perdu, mais qu'on revendique peut-être moins aujourd'hui. Quoi qu'il y a des scènes dragues magnifiques et flamboyantes, et heureusement d'ailleurs.
Cette exposition, Pas Sommeil, c'est quoi le public? C'est tout le monde?
Ah ben, bien sûr! Tout le monde doit venir, puisque tout le monde a envie de faire la fête. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que la fête? Tout le monde fait la fête. Voilà, différemment. Mais ici, autour de nous, on a des gens qui font la fête, on disait, dans des backrooms new-yorkaises. On a des enfants qui font un carnaval. On a papy, mamie qui s'habillent en roi et en reine, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges.
Et ce partenariat avec d'autres lieux de culture, c'était aussi une très belle occasion de faire circuler la fête dans la ville?
Ben oui, c'est ça, c'est l'idée de faire un parcours, c'est aussi vraiment une envie des champs libres, du musée et du FRAC de montrer qu'ils sont complémentaires. On n'a pas exactement les mêmes missions, pas les mêmes collections, mais par contre, on parle en permanence, on anime la ville ensemble, et donc là, on voulait faire la fête ensemble.
Est-ce qu'on peut parler aussi des temps forts? Est-ce qu'il y a d'autres événements, par exemple, associés à cette collaboration, au temps de l'expo à venir?
Bien sûr, on commence, le vernissage a lieu le vendredi 10, enfin, c'est le début de l'expo vendredi 10 et l'ouverture publique le samedi 11, et c'est le week-end du festival Big Love. Et donc il y a un certain nombre d'événements qui se passent au FRAC et au musée pendant tout le week-end. On a différentes choses, on va aussi être dans d'autres styles, être envahi par la fête de la musique. Effectivement, le 21 juin, il y a différentes choses avec les tombées de la nuit pendant l'été. Et on va finir l'expo le 18 septembre, qui est le dimanche des Journées du Patrimoine. Et le 17 soir, avec l'Antipode et la Criée, on fait une grosse soirée rail avec l'artiste Katia Camelli, qui a son exposition en ce moment à la Criée en centre-ville. Et ça va être dingue.
Guigan est le coordinateur labo de la 4e édition de la Biennale Spéléographie, événement qui se tient à Rennes jusqu'au 26 juin, avec un temps fort de restitution ce dimanche. Spéléographie, c'est dans le nombril de Vénus, maintenant. Bonjour Régis.
Bonjour.
On va parler de spéléographie.
Oui.
Qui est un événement donc, qui a démarré le 12 mai et qui va s'étendre jusqu'au 26 juin avec des animations, des rencontres autour du graphisme, de l'art, de l'écriture, des auteurs.
Des écritures en général, j'ai envie de dire. Du coup, parce que ça permet de qualifier ce qu'il y a à l'intérieur de spélographie. C'est-à-dire que ça regroupe les écritures littéraires, dessinées, ça peut être cinématographique ou spectaculaire. Voilà, en fait, c'est toute forme d'écriture. Et les frottements qui peuvent se passer entre toutes ces écritures, à partir du moment où on définit un sens large comme ça.
Vous êtes un artiste, Rennais, justement, qui a été programmé dans une précédente édition de Spéléographie, c'est bien ça ?
Ouais, c'était en 2018, et en tant qu'auteur, donc j'étais invité.
C'était quoi le travail que vous aviez réalisé ?
Alors, en fait, puisque Spéléographie est une biennale, elle a lieu tous les deux ans. L'an passé, elle n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la pandémie et il ne s'agissait pas de faire les choses à moitié. Donc voilà, on ne voulait pas une biennale bancale. Donc les organisateurs ont décidé de ne pas la faire. Et en fait, elle regroupe plusieurs temps et notamment un temps... Alors, elle commence, comme on l'a dit, le 12 mai par différentes expositions d'artistes qui vont être invités un peu plus tard, c'est-à-dire... qui ont été invités cette semaine à ce qu'on appelle le labo, donc un temps de création croisée entre différents artistes, ils sont 12 au total. Et puis ensuite, des temps aussi de rencontres sur différents événements, que ce soit des événements théâtre, des événements, des rencontres avec les artistes, des conversations, de présentation de leurs projets, ou encore des formes un peu plus, j'allais dire ludiques, mais ouais, voilà, inattendues. Voilà.
Familiales, ouais. Joueuses.
Voilà, et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un temps qui est le temps le plus fort là, qui avait lieu, donc du coup, qui a lieu jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm. Aujourd'hui, qui va se terminer aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, on a vraiment la résultante de cette...
L'apothéose.
De cette semaine. Et ça continuera parce que les expositions, les artistes qui sont exposés le sont toujours jusqu'au 26 juillet, même certains un peu plus longtemps encore.
Mais je voulais revenir sur votre expérience en tant qu'à un moment donné artiste en 2018 dans une spéléographie. Vous êtes venu en tant qu'artiste, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Eh bien, il s'est passé la même chose qui se passe pour les personnes qui sont là, c'est-à-dire que des artistes venus de différents horizons se rencontrent. Certains sont peut-être plus littéraires que d'autres, d'autres sont vraiment dans la bande dessinée ou dans le graphisme pur, d'autres peuvent être musiciens, et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais il finit toujours par se passer quelque chose, parce que, eh bien, on voit qu'on a peut-être des affinités avec un tel, que sur ce temps où on est en train de créer, d'expérimenter, eh bien, on voit qu'un tel a dessiné telle forme, et ça peut inspirer, et tout ça est présenté a été présenté comme là, à la fin du labo, une restitution, et qui s'est là présenté sous forme de livre et de dessins, d'images exposées. Donc un livre qui très très hétéroclite, un vrai livre d'écriture, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait une sorte de cheminement, de cartographie à l'intérieur de ce livre. Là, il va y avoir une restitution aussi. À l'origine, on n'est pas obligé de le faire. C'est ça qui est un peu déstabilisant en tant qu'artiste invité. On n'est pas obligé, on nous dit qu'on n'a pas on n'est pas obligé de donner un résultat. Voilà, on est là ensemble pour...
Pour être un moteur, catalyseur dans le groupe.
Oui, alors pour moi, là, oui, parce que je suis le coordinateur du labo de cette semaine.
Cette année.
De cette année, quoi, en fait. Ouais. Donc, du coup, j'ai cette expérience et qui me permet qui permet aux artistes d'être confort, en tout cas de les accompagner dans ce qu'ils ont envie de proposer, ou même dans les moments où ils sèchent, ça peut arriver, en tout cas, voilà.
C'est intéressant, ça veut dire que ce moment d'immersion des artistes, sans les mettre la pression, peut laisser place au surgissement.
Ouais, complètement. Et en fait, c'est ça qui est très chouette, c'est que ça peut être une inquiétude au départ, même les jours bien avant qu'ils ne viennent.
Ils sont inquiets.
Forcément, ils réfléchissent un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire ? Il faut que je fasse quelque chose quand même. Et en fait, voilà, ils arrivent et les choses se passent naturellement parce qu'ils ont le droit aussi de continuer un projet sur lequel ils sont en cours, ou du coup ça leur permet peut-être de faire un petit pas de côté par rapport à ce qu'ils font et de en fait ça
d'agrémenter peut... différemment.
Voilà, à mon sens ça ne peut faire que profiter à leur projet. Ils sont riches de plein de choses et c'est un temps de partage, de porosité en fait, parce que tout ça se touche, se traverse et nous traverse, et ils sont tous aussi, ils ont des pratiques qui sont multiples et ils ont des façons de faire et de présenter les choses qui sont qui passent par exemple par la micro-audition, par certains sont édités chez des éditeurs connus, mais en tout cas voilà, ils ont tous plein de façons de faire et de créer, et c'est ça qui est intéressant de faire partager, et partager avec le public aussi, parce que toute la semaine on a pu découvrir leur travail, que ce soit celui d'Inès Cassignol qui fait du théâtre, que ce soit celui de Mathieu Morin qui, lui, par exemple, s'intéresse aux arts bruts et a écrit un livre suite à un voyage qu'il a fait aux États-Unis, que ce soit celui d'Alex Baladi qui est vraiment un dessinateur de bande dessinée, mais avec une construction, un schéma assez original. Bah, c'est pas celui qu'on rencontre dans la BD classique. En tout cas, ils ont tous des particularités, ou des gens comme Chameau qui fait des livres pour enfants, mais qui sont pas qui ont un petit côté poil à gratter, hein, et assez punkoïde derrière. Donc voilà, c'est plein de façons de faire et d'envisager qui sont pas dans des schémas forcément classiques. En tout cas, qui bousculent un peu les frontières, les cloisons, quoi, qui décloisonnent, comme on dit.
Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle biennale, il y a un artiste qui a participé de la biennale précédente qui est invité pour venir coordonner le labo.
Pas spécifiquement, mais ça peut.
Ouais. Ouais. C'était votre cas, mais c'était pas forcément. C'était mon cas, voilà. Et est-ce que dans ces moments-là de partage avec les artistes, il y a aussi sans doute des moments très conviviaux?
Oui, forcément. Bon, en tout cas, là, je pense que Laurence Coste, qui est la responsable, qui a organisé la biennale et qui a fait le choix, qu'on a partagé, hein, ça s'est échangé, qui a fait le choix des artistes, pour moi, a fait le bon choix. En tout cas,
c'est un beau sésame.
Oui, en étant tout le temps avec les artistes et en les rencontrant, en échangeant, en voyant ce qu'ils font, je me suis dit ouais, en fait, c'est évident, ça matche vraiment bien. Moi, quand je les ai rencontrés, donc du coup, en début de semaine, j'avais l'impression déjà de les connaître. Comme si c'était des amis, et j'ai l'impression qu'ils se connaissaient tous, ce qui n'était pas le cas. Ils ont fini par m'impressionner. Moi, j'étais aussi un petit peu, et ils étaient eux encore plus impressionnés, je pense. Et puis, plop, voilà, les choses se sont faites de façon évidente. Et c'est vraiment un plaisir, parce que c'est l'évidence de croisement de personnes, mais aussi d'artistes et de créations, quoi, qui semblent complètement à l'opposé. Mais il y a des choses qui se disent, forcément, d'une discipline à l'autre, d'une forme créatrice à une autre.
Alors, on a bien compris qu'il y aura des lieux d'accueil et d'exposition jusqu'au 26 juin. Mais là, concrètement, ça démarre aujourd'hui à 11h. On va éteindre la radio juste après l'émission pour courir aux ateliers du vent et découvrir ce qui est en train de se tramer dans cette restitution du labo. Justement, est-ce qu'on peut dire un mot de cette journée de dimanche?
Alors, ça va être une journée qui commence maintenant et qui va être intense. Donc, c'est la restitution du labo. Donc, elle va prendre une forme, elle peut prendre plein de formes différentes. Là, c'est une forme, on va dire, elle est exposée, sont exposés ce qui s'est fait durant cette semaine. Alors, c'est exposé, là aussi, ça, au sens le plus large du terme. Et peut-être aussi que sera créé un objet, est-ce que ce soit un livre, est-ce que c'est un disque, est-ce que c'est du son, une affiche, voilà,
la création continue.
Pour agrémenter cette journée aussi, il y a différents temps qui sont proposés, là aussi toujours par des artistes du labo. Donc Mathias Picard, là, dès aujourd'hui, dès maintenant, propose, il va falloir que j'y aille d'ailleurs, propose dès 11h, donc un match de badminton, en fait, un tournoi de badminton.
Ah, je ne vous savais pas aussi sportif.
Moi non plus, et je vais voir si je continuerai après ça.
C'est pas un vrai badminton quand même.
Alors, si, c'est du vrai badminton, c'est-à-dire c'est les vraies raquettes, les outils sont ceux qu'on utilise pour faire ce sport. Il y a peut-être quelques règles qui vont être en décalé. Voilà. Il faudra peut-être suivre des lignes particulières
pour pouvoir taper la balle, enfin le volant.
À découvrir. En tout cas, c'est des doubles, donc du coup, c'est encore plus sympa.
Pour le public, c'est gratuit.
Oui.
Ça va se passer là aujourd'hui, par exemple. Ouais. Donc la journée est aux ateliers du vent, avec une rencontre des artistes, découverte de la restitution, les œuvres qui continuent de se faire. Et le public, alors, il peut participer, il peut connaître tout ça, toute la famille, c'est pour tout le monde ?
Oui, parce qu'en plus, à 14h30, là, il va y avoir le quiz de l'Artichaut. L'Artichaut, c'est une maison d'édition, alors Artichaut, A-R-T-I-C-H-O, c'est une maison d'édition qui a créé...
Ça pourrait être même Archichaut.
Oui, oui, et qui a créé Chameau, qui est une dessinatrice et illustratrice qui est donc invitée au labo, et qui a créé cette maison d'édition avec Yacine DeVos, et tous les deux proposent un quiz. Alors, plein de questions, forcément, je pense, sur la BD, je n'ai pas la teneur du quiz, sur la BD, sur l'illustration, sur la télévision aussi, sur la culture en règle générale, je pense. Et oui, il est important de dire quand même avec des enfants, c'est aussi leur public hein, par rapport à leur maison d'édition, et important de venir avec des enfants parce que certaines questions vont être difficiles il sera difficile de les répondre si on est adulte. Il y a des choses qui vont vraiment toucher spécifiquement les enfants, notamment pour trouver des héros qui échappent à ceux qui ont plus de 15 ans. et voilà, donc du coup, avoir un enfant dans son équipe, c'est un atout majeur. Donc le tournoi de badminton qui commence là, à 11h, il y a le quiz de l'Artichaut à 14h30, et il y a quand même un petit temps avec Agathe Allais, qui est une dessinatrice et qui propose un spectacle ou des tours de magie, je ne sais pas comment les définir, assez particulières, qui correspondent à son univers... bien définissable. Il faut le voir parce que je ne vais pas pouvoir l'écrire à la radio, on n'a pas le temps pour ça. Oui, mais voilà.
Il faut garder la surprise.
Voilà. Et ça s'appelle quand même donc, La Morte dans le cercueil. Un tour de magie un petit peu avec cette connotation mystérieuse.
Mortelle.
Et sombre, voilà, à découvrir.
Donc ce dimanche, on connaît maintenant la programmation qui vous proposez. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus de ce qui va se dérouler, les expositions de l'espace public, dans les lieux d'accueil à venir jusqu'au 26 juin ?
Ouais, alors il y a encore quelques expositions qui ont lieu, notamment celle de Alex Baladi, qui a été inaugurée, je crois que c'était le 1er ou 2 juin, bon j'ai déjà oublié, mais qui a cours jusqu'au 26 juin à l'Orangerie du Tabor. Jusqu'au 26 juin aussi, on peut voir 24 heures sur 24, ça c'est un des avantages, la proposition de Mathias Picard à la minuscule galerie. Alors tout est en accès libre, hein, évidemment.
Donc juste à côté de Planétio.
Juste à côté de Planétio, voilà, rue Saint-Louis. Sur la dalle du Colombier, si on va à la librairie L'Endroit, on pourra voir le travail de Stami Stein, qui se prolonge aussi, je pense même au-delà du 26 juin. Et sur les quais centrales de Rennes, en fait, avenue du Sergent Maginot, on peut voir les 4x3 que propose L'Endroit. Et donc, du coup, c'est Anne Bruni, qui est aussi une artiste invitée, qui s'y est collée, si j'ose dire. Et c'est vraiment très, très beau. En tout cas, les retours sont très positifs parce que c'est 4 panneaux très, très colorés. Et ça fait du bien, ouais.
Et ça fait du bien aux yeux, à l'esprit.
En fait, d'avoir vu souvent son travail en tout petit et de le voir en gigantesque, c'est génial.
Magique. Là, cette édition réunit combien d'artistes ?
Il y a 12 artistes au total, ouais.
Dans le labo, notamment.
Dans le labo, et puis chacun d'eux... donc est intervenu cette semaine et ceux qui exposent, ceux que j'ai cités par exemple sont dans le labo, donc, quand je parlais de Mathias Picard ou de Anne Bruni, ils sont tous dans ce temps de labo.
Et cette programmation qui a été façonnée, c'est une programmation assez ouverte, française voire internationale, la participation
Oui, alors est-ce que je vais dire francophone ? En tout cas, ils parlent tous français, mais oui, c'est un éclairage en tout cas sur la création qui fait venir des gens de Marseille, de Bruxelles, de Genève, de Paris, de Rennes, de Bretagne, et toujours une attention aussi particulière pour que on ait autant d'artistes féminins que d'artistes masculins. Voilà, tout, il y a toujours un juste équilibre à plein d'endroits. Donc voilà, on retrouve un panel artistique et de personnalités. J'ai envie de dire équilibré, quoi.
Oui, équilibré, surtout rapport. là, 4 ans donc d'absence, puisque 2020 n'a pas eu lieu, c'est une biennale, donc 2018-2022. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Est-ce qu'il y a de nouvelles attentes? Le public, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut dire au public? C'est quoi le message de cette spéléographie de cette année?
Bah, pour moi, il est dans une continuité hein, de faire découvrir des gens. Comme je disais, certains sont, c'est pas forcément des auteurs célèbres tous, mais ils sont connus dans un milieu, dans un réseau, et c'est toujours bien de l'élargir et de l'ouvrir, quoi, d'ouvrir des fenêtres et puis de voir en tout cas qu'il y a plein de façons de créer et de proposer des choses. Il y a plein d'alternatives. Éditer, par exemple, de nos jours, c'est compliqué. Alors du coup, comment on fait pour éditer par soi-même ou pour montrer ce qu'on fait? Et je pense que ces gens-là, il y en a plein qui sont très ingénieux et qui font en fait. Voilà, j'ai envie de dire ça, ce sont des gens, là, je les ai vus à l'œuvre dans le labo, c'est des gens que rien n'arrête d'une certaine façon, ils font envers et contre tout, et donc ils ont réussi à faire vivre des petites maisons d'édition, de micro-édition ou des choses avec des formats particuliers qui n'entrent dans aucune case, et tout est toujours possible. Ils offrent des alternatives aussi à la création.
Parce que le public, il existe finalement. Bah oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a peut-être des talents cachés, des gens qui ont envie de faire des choses et qui n'osent pas forcément. Donc c'est quand même un moyen, en venant à ce genre de rencontre, de se faire une idée de ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on est un peu seul dans son coin et finalement, c'est possible.
Ouais, et puis je pense que ce genre d'artistes éveille la curiosité parce qu'ils sont. Alors, ils ont leur identité artistique et leur singularité. Et on est tous singuliers d'une certaine façon. Et je pense qu'on peut découvrir des univers sortis des cadres habituels.
Ouais, est-ce qu'on a besoin quand même hein,
oui, il s'agit de bousculer, en fait, de casser un peu les murs pour pouvoir faire. Pour que ça pousse de partout, quoi, pour donner une image un peu végétale.
C'est très beau comme image. Mmh. Merci beaucoup. Cette nature à la fin de mon interview. Quand on veut savoir pour la programmation, pour les lieux de rencontre, les horaires, etc., comment peut-on se renseigner?
Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site.
Oui.
Donc, c'est spéléographie avec un S, je précise, .com. Et là, on a vraiment toutes les informations sur les choses à voir encore, et puis sur ce qui s'est passé les années précédentes et sur les artistes qui accompagnent, parce que Spéléographie, c'est une biennale d'écriture, mais il se passe des choses tous les ans. Par exemple, quand il n'y a pas la biennale, il y a des résidences d'artistes et des accompagnements d'artistes pour leur permettre d'avoir des temps de travail, et on les retrouve après à nouveau encore dans la ville ou en partenariat avec d'autres structures locales.
Bon, en tout cas, là, on va éteindre la radio et on va passer en mode 4e édition de Spéléographie aux ateliers de Jovan et plus si affinité avec les expos jusqu'au 26 juin. Merci beaucoup, Régis, d'être venu nous raconter tout ça sur Canal B.
Merci.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Écoutez le podcast de l'émission sur canalb.fr. À dimanche prochain. Bisous. Bye.